pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 188. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins et surtout pas politique, puisque c'est un grand jour. On enregistre juste après avoir appris la grande nouvelle, c'est que l'idole de Benjamin François qui se trouve à Los Angeles en ce moment, son idole revient au gouvernement, Bruno Le Maire.
Oui, c'est moi qui suis à Los Angeles, c'est pas Bruno Le Maire.
He's back. Et est-ce que tu es heureux?
Ah bah écoute, moi je suis ravi qu'on puisse entendre parler du renflement brun de Bruno. parce que Bruno, qui il y a 15 jours, déclarait haut et fort qu'il était hors de question qu'il revienne en politique. Et puis bon, bah manifestement, ça a pas dû être trop compliqué de le convaincre. Moi, je suis curieux de savoir combien de temps va mettre le gouvernement le cornu à se faire censurer. Car oui, si vous écoutez ce podcast dans 2 mois, il est possible que le gouvernement ait déjà sauté.
Alors ça c'est vraiment une intro très Super Ciné Battle, puisque en général, puisqu'on enregistre maintenant 2 semaines avant diffusion, le temps de monter et tout ça, en général, on sait plus où on en est temporellement, quoi.
Ah mais tu crois pas si bien dire, parce qu'il y a 15 jours, j'écoutais les épisodes que vous aviez enregistrés entre les 2 tours des législatives l'année dernière. Mmh. Et c'était assez rigolo à écouter. En fait.
Ah ouais, parce que est-ce que c'est parce qu'on y croyait ou est-ce que parce qu'on était dépité?
Ah bah vous étiez pas encore dépité puisque le NFP venait de gagner, enfin venait d'arriver en tête.
Non mais
vous étiez plutôt confiant et puis en fait bon c'est passé ce qui s'est passé quoi.
Moi je me fiche du résultat. L'important c'est que on ne l'accepte pas.
Oui
c'est ça qui est vrai.
C'est ça qui est formidable.
C'est que quel que soit le résultat de toute manière on fait non il nous faut vraiment Eric Woerth.
Moi je trouve ça formidable qu'on se tape encore 5 ministres LR au gouvernement alors que c'est un parti qui fait 6%, on le rappelle, quoi.
Ouais, bah, ils ont pas... Mais c'est ce qu'on appelle jouer le jeu de la démocratie. De la démocratie, c'est-à-dire qu'au lieu de faire...
J'ai cru que t'allais appeler ça jouer le jeu du FN, parce que c'est ça le jeu, en principe.
Je dirais... Alors, écoute, il faut que tu saches un truc. À chaque fois que je veux aller au ciné et que Jérôme me pose un lapin, puisque ça arrive, il travaille en ce moment beaucoup,
ouais.
Je lui dis, Jérôme, on va voir, je sais pas, Weapons. Il me fait, non, je peux pas. Je lui fais, Jérôme, tu fais le jeu du RN.
Ah, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
À chaque fois, je lui dis, et ça devient un truc comme ça. Et si je peux, je trouve un mème et je lui fais faire dire le jeu du RN. Je suis désolé, mais voilà, pas de politique dans ce podcast. Mais...
Et puisqu'on parle pas de politique, on parlera pas du fait que Sarkozy ait pris de la prison ferme. Parce que ça aussi, c'est comme dans les choses qui font plaisir.
Alors, on était dans notre chambre au Japon, tous les quatre réunis, on a appris ça, la grande nouvelle.
Ah, car oui, tu étais au Japon. Belle. Ouais. Putain, mais quelle transition, mais tu es un professionnel.
Mais en fait, c'est le Japon de Sarkozy. Hein. Pour nous, c'est... tout jamais, genre. Et en plus, c'est quoi, lui, à la rigueur? Bon, tu sais quoi? Je trouve qu'en plus, il a une ligue de défense qui est vraiment intéressante, entre CNews, LCI, enfin, tu vois, il a ses soutiens.
Ah, c'est pas le mot que j'aurais employé, j'aurais dit insoutenable, mais intéressante aussi.
Non,
si
non,
tu
non,
veux.
Mais moi, tu sais quoi, je crois en la justice de mon pays. En général, quand tu dis ça, c'est que tu vas en taule. C'est le genre de truc que Tapie disait avant d'aller en taule. Mais tu sais quoi, s'il pouvait accélérer le pas pour envoyer au Newf son fils.
Ah oui, bah oui.
Parce que tu sais quoi, déjà si jeune et si insupportable.
Ah, Louis Sarkozy, en matière de tête à claque qui se pose là, il est impressionnant.
Mais on pouvait pas lui trouver des PV et tout ça. Ce qui est génial, c'est que c'est un peu le... C'est un peu le pendant macroniste de la morale. C'est-à-dire, c'est genre, il nous donne plein de conseils, mais visiblement, il a jamais essayé sur lui, quoi. Et ça me hérisse le voile. Et en plus, bah, tu sens qu'il essaye de faire jeune, donc il essaye d'utiliser des mèmes, la mangue.
Mais il est jeune, ce con-là. C'est ça le pire, c'est qu'il est jeune. C'est juste dans sa tête qu'il a 80 ans. Mais sinon, il est pas vieux, hein.
Et qu'il essaye de faire genre, ouais, je débarque sur le terre-terre, alors que le mec, il a littéralement passé son enfance entre New York et Abu Dhabi.
Mais oui. Le type, il était au lycée français de New York, quoi. C'est à cause de Petit Louis que les lycées français à l'étranger ont été gratuits pour les Français à l'étranger. Enfin, c'est...
Pendant le laps de temps de 3 ans. Mais tu connais l'histoire. Pourquoi ce truc existe? C'est que Nicolas Sarkozy, qui venait fraîchement de se séparer de
Cécilia.
Cécilia lui envoie la douloureuse pour les études à Abu Dhabi, de Petit Louis à Abu Dhabi. Et c'était genre 150 000 francs l'année.
Bah ouais.
150 000 euros.
C'est très très cher, les lycées français à l'étranger.
C'est très très cher. Et je pense pas qu'Abu Dhabi soit le plus démocratique. Et du coup, en fait, on peut avoir des bourses. C'est ça qui est le propre de l'éducation, c'est que quand tu n'as pas les moyens et que, mettons, tu es expatrié, l'État français peut t'aider dans ce cas-là, mais il faut être accessible aux bourses. C'est-à-dire, faut gagner moins.
Faut
gagner moins que le barème, quoi. C'est ça qui.
Ouais.
C'est
ça. Et il me semble que t'as une obligation de résultat aussi pour les bourses, hein, que si t'as des résultats pourris, tu perds tes bourses.
Ah bah non, t'es viré de l'école, mais tu perds pas des bourses en cours de route parce que t'es pas bon.
Le lycée français, je pense que quand tu continues de payer, tu t'es pas viré, hein.
Je ne connais pas la technicalité de ce truc. Par contre, je peux te dire que du coup, de 150 000 euros, tout d'un coup, pendant 3 ans ou 5 ans, enfin le temps qu'il était président, il y a eu une gratuité des études pour tous ces gamins méga bourges.
C'est un des premiers trucs sur lesquels Hollande a voulu revenir, et je me souviens très bien qu'ici il y avait des chaînes d'emails de Français à Los Angeles qui gueulaient parce qu'ils voulaient absolument garder ça. Donc,
mais en fait, non. En fait, c'est ça qui est l'intéressant des études, c'est que tu payes au prorata de ce que tu peux. Après, si tu veux avoir des études gratuites, mais va à la fac, mon gars. Moi, j'ai fait ça et. Gratuite. Non, c'est pas gratuit. Mais c'est 1000 balles l'année. Mais quand je dis 1000 balles l'année aux États-Unis, ils rigolent.
Et c'est rien du tout, oui.
1000 balles, c'est le prix de l'essence pour t'amener.
C'était moins que 1000 balles, hein, même. Je me souviens. Comme j'ai fait la fac moi aussi, et c'était beaucoup moins cher que ça.
Moi, c'était en francs, et je crois que je payais. Non, mais quand je dis 1000 balles, c'était 1000 francs, tu vois. C'était peut-être.
Oui, voilà, ouais. Mais tu vois, tu me l'apprends pour Abu Dhabi, parce que je savais qu'il avait été au lycée français de New York, mais Abu Dhabi, je ne savais pas.
Mais non, mais il était avec Atias, c'est à l'époque où Cécilia était avec Atias, et du coup, elle est toujours avec, je suppose. Mais du coup, lui, il s'était expatrié dans les Émirats, et il a passé son enfance là-bas, et il a une enfance méga dorée. Et tu sais quoi, on lui reproche pas ça, on lui reproche juste d'ouvrir sa gueule maintenant.
Ah bah, on lui reproche d'être con maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, il avait pas forcément son mot à dire, hein. il a suivi sa mère. Mais voilà, le fait qu'il ouvre sa gueule maintenant, c'est un peu le problème.
Moi, le coup de la tirade sur les arts martiaux, là, je sais pas si...
C'était incroyable.
Le truc où il dit, moi, il faut que mes enfants, ils fassent des arts martiaux parce que il faut être capable de violence ou de je sais pas quoi. C'est, pour moi, c'est red flag, mec qui tape sa femme.
Bah, écoute.
C'est genre, ah oui, en plus de ça, en plus d'avoir un énorme passif, genre il a l'air vraiment con comme un balai, quoi.
En tant qu'instructeur en arts martiaux, je te confirme que si un mec tient ce genre de discours ici, soit on le recadre, soit on le vire.
Ah bah ouais, mais j'avais un pote qui était prof de Krav Maga, donc il connaît un peu les trucs d'autodéfense, et il me disait que le truc qu'il faisait, c'est qu'à un moment il disait oui, il faut faire attention à tes techniques, tu peux tuer quelqu'un, et s'il voyait les étincelles dans les yeux, il lui disait... On arrête. Parce qu'il y a des gens qui vont faire les arts martiaux avec un but mauvais, tu vois. Enfin, tu peux, voilà, il faut faire attention, quoi.
Alors, en principe, l'objectif quand tu apprends les arts martiaux, c'est que pour ne pas t'en servir, en fait.
C'est la discipline. Et ma prof de kung-fu me disait très bien, vous savez quoi, la meilleure stratégie pour rester vivant, il faut savoir courir et vite.
Voilà, exactement.
J'avais failli faire une transition sur le Japon, mais je vais faire une transition personnelle sur. Tu parles de courir. J'ai pas couru depuis février, parce que tu sais, j'ai cette histoire d'opération au genou, j'ai ligaments croisés.
Oui, puis tu pouvais difficilement marcher déjà.
Marcher, ça allait, mais il y avait des trucs que je pouvais vraiment pas faire. D'ailleurs, les gens sont assez gentils. En plus, même mon équipe, Greg et Pouillot, ils me demandaient si t'es sûr, ça va et tout. Moi, je dis non, pas de problème. Mais parfois, je prenais l'ascenseur. Les escaliers japonais.
C'est fatal, ouais.
Ouais, ça peut me crever, quoi.
Ouais.
Et alors, il m'est arrivé des trucs parce que du coup, j'ai eu un décalage entre les deux jambes. Donc, du coup, la plante de pied, elle a pris cher. J'ai eu à un moment une tendinite de la plante de pied. Je savais pas qu'on pouvait. Et je me dis, bon, là, je me suis dit, bon, écoute, il faut que je fasse opérer ce truc. Et puis, je vais avoir un an de rééducation. Mais écoute, il faut que je vive avec ça.
Ouais.
Et j'ai fait quand même une IRM de contrôle avant. J'ai dit, ce serait bien de contrôler l'IRM pour savoir comment c'est et tout. Parce que quand j'ai fait l'IRM, c'était plus à vif. Mmh. Et là, la personne me dit, elle est antérieure ou postérieure à votre session de ligament croisé? Et moi, je dis, je crois qu'elle est postérieure. Elle me dit, non, elle me dit, parce qu'elle a l'air plutôt en bon état, en fait, maintenant.
Mm-hmm.
Alors que normalement, c'est pas un truc qui peut se remettre tout seul. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un blème au moment où j'ai fait. Et là, que maintenant je me suis presque remis. Ça s'est remis de lui-même. Est-ce que mon pied m'a fait une Wolverine? C'est une question que je pose vraiment avec naïveté. Genre, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais.
Et ça veut dire que pendant tout ce temps-là, en fait, comme j'étais traumatisé de la douleur, de certaines douleurs, je n'ai pas tenté de faire plein de trucs. Peut-être que j'étais au repos.
Ouais, donc du coup, tu t'es suffisamment reposé pour que ça guérisse.
Peut-être. Je n'ose toujours pas courir.
Ouais.
Je suis une kiné. Je suis une kiné pour essayer de récupérer. Mais en fait, j'ai demandé. Alors, mais du coup, on fait quoi? Elle me dit, là, comme ça, il y a pas besoin d'opération. C'est parce que c'est sévère une opération. Là, on peut faire une. On peut faire d'autres. Il y a d'autres solutions. Peut-être des infiltrations, des machins, des bidules. Mais du coup, voilà, je crois que j'ai l'impression que j'ai pris un comprimé comme dans les jeux vidéo et je deviens et c'est devenu plus costaud quoi. Je reviens plus costaud qu'avant.
D'accord.
Et je suis assez satisfait. Donc, si tu veux savoir, les escaliers au Japon ne m'ont pas posé problème. Et contrairement à l'année dernière, je n'ai pas été énormément malade. J'ai certes été malade, mais pas énormément. L'année dernière, c'était terrifiant. Et là, cette année, les gens me disaient ah c'est dommage, machin, t'es tombé malade au Japon. J'ai dit non, mais là, je peux juste pas manger pendant deux jours. C'était pas grave. C'est pas si grave. Enfin, je buvais du bouillon et du miso quoi. Mais j'ai eu une espèce de truc au bide et tout. C'était vraiment très très dur. Et finalement, en fait, c'est passé les deux derniers jours, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais si tu regardes la vidéo du Tokyo Game Show qu'on a fait avec Sumimasen Turbo, il y en a certaines où genre je suis pâle quoi. Et je suis pâle et à tel point où je leur ai dit, les gars, j'ai fait tous les plateaux que je pouvais faire, que je devais faire. J'ai dit maintenant, il faut que j'aille dormir maintenant direct. Genre il faut que je te dise un truc, c'est que Greg adore faire du shopping. Et à côté de Makuhari Messe, il y a un espèce de centre commercial avec que des fins de série Nike, Adidas et tout ce que tu veux. Mm-hmm. Même les trucs locaux, pas que des trucs US, mais aussi des trucs locaux. Et c'est genre les baskets à 10 balles. C'est vraiment un truc comme ça, quoi. Déjà qu'au Japon, elles sont pas chères. Mais
bonne
en
affaire.
Plus, elles sont là, elles sont à 10-20 balles. Et ici, il y a
bien. Avec le yen en plus, qui est super bas en ce moment.
Et en plus, tu peux faire la détaxe. Alors, genre vraiment, c'est comme si on te le donnait, hein, tu vois.
Ouais,
Et s'il y a une chose que Greg aime par-dessus tout dans la vie, c'est faire une bonne affaire. Donc, il a beaucoup de bonnes affaires là. Mais je leur ai dit, non, moi, j'aurais pas la force de faire tout ça. Moi, je rentre direct et je dors. Et ça a été bénéfique puisque je me suis remis pour les derniers jours.
D'accord.
Et voilà, c'était un Japon. On est parti en se disant, aïe, 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 on va avoir 6 ou 7 typhons et tout. On regardait la météo. Il pleuvait sur toutes les BTO.
Ouais.
Et finalement, on n'a pas eu un seul jour de pluie.
Ah, c'est cool.
Ouais. Et même le dernier jour, c'était reparti à 30 degrés. Et il faut se méfier au Japon quand ça part à 30 degrés, ça veut dire que la clim, la clim devient un PNJ surpuissant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut te tuer, la clim. C'est-à-dire, ça te souffle dessus et tu peux tomber à la renverse tellement il y a de clim. C'est vraiment, je déteste la clim. Je préfère avoir très très chaud que avoir de la clim. Mais bon. Je sais que c'est une unpopular opinion pour Los Angeles.
Ah ouais, écoute, nous on a essayé de limiter au minimum la clim cette année, cet été.
En plus, ça coûte cher en électricité.
Ça coûte cher en électricité, puis ça pollue, hein, ça a une empreinte carbone pas terrible.
Si tu dois vivre avec, tu dois vivre avec, mais voilà.
Ouais, bien sûr, mais cet été on a eu de la chance parce qu'on a eu un été exceptionnellement doux. On n'a pas eu tellement de gros jours vraiment très 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 chauds, donc globalement sur tout l'été... on a dû mettre la clim peut-être 2 semaines, mais sinon le reste du temps, en fait, on ouvrait les fenêtres la nuit et on les fermait la journée et ça suffisait. Donc, c'est bien.
Bon, voilà, je t'ai parlé en vite fait du Japon. J'y reviendrai sans doute dans Sumimasen. Hein. On n'est pas un podcast spécial Japon. Toi, il me semble que tu as voyagé aussi.
Ben oui, moi, en fait, pour notre anniversaire de mariage, ma femme a des miles à utiliser avec American Airlines. Et du coup, on s'est dit, ben, on va aller à Hawaï. On n'y était jamais allé. Et c'était donc une première pour tous les deux. On a fait un court séjour. On n'y est allé que 5 jours. Mais c'était super. Alors, on avait l'embarras du choix pour savoir sur quelle île on allait aller, mais comme c'était notre première, on s'est dit on va rester sur l'île sur laquelle on atterrit. Donc, comme généralement, t'atterris à Honolulu, donc tu restes sur Oahu, qui est l'île la plus peuplée. Mais c'est pas la plus grande, hein. La plus grande île, c'est celle que les locaux appellent Big Island, qui est l'île de Hawaï elle-même. Et après, les autres îles, du coup, il y a Maui, je sais plus le nom des autres, mais on ira peut-être une autre fois. Il y a l'île qui est la propriété de Larry Ellison, le grand pote de Trump et le deuxième homme le plus riche du monde. Le mec, il s'est pas fait chier, il a acheté une île tout entière. Pendant ce temps-là, c'est Mark Zuckerberg qui empiète sur des terres qui sont propriétés de personnes locaux, indigènes à Hawaï, et qui se fait pas chier et qui leur vole des terres parce que c'est Mark Zuckerberg, c'est un gros connard. Mais bref, je digresse. Ah ouais, c'était super. On a passé vraiment des super belles journées. La météo était avec nous, on a eu de la chance. On a fait un grand tour. On est allé faire du snorkeling avec des tortues. On est allé visiter le centre culturel polynésien, qui globalement est une sorte de... Comment décrire ça? C'est pas un parc d'attractions au sens carré du terme, mais c'est un centre en extérieur où tu as une représentation des diverses cultures polynésiennes. Donc, par exemple, t'as une espèce de petite île pour les Samoa, t'as un îlot pour Tahiti avec des gens qui parlent français. Et à chaque fois, c'est des locaux, en fait, qui viennent et qui bossent là. Et qui bossent là notamment pour financer leurs études, car ils sont à la Brigham Young University, qui est juste à côté, qui est une université mormone. Donc tous les gens qui sont là, c'est soit des gens qui sont convertis au mormonisme, ou c'est des gens qui, en fait, pendant quelques années, bouchent leur nez et font semblant d'être mormons parce que l'église finance leurs études. Bref, c'était très cool le centre polynésien en tout cas, on a vu un super spectacle à la fin. J'ose espérer que c'est pas comme au Puy du Fou où il y a une réécriture à la sauce mormone. Globalement, ça parle pas du tout de mormonisme en fait. T'as juste la proximité et ils te disent que c'est l'université de BYU, donc Brigham Young University, qui finance globalement. Donc c'est pas du tout mis en avant. C'est juste que c'est des étudiants en fait qui en profitent. Donc voilà, donc c'était vraiment super. Je sais que Hawaï depuis la France c'est assez loin, donc c'est pas très pratique. Mais depuis Los Angeles c'est 5 heures de vol seulement entre guillemets, donc franchement ça se fait. C'est vraiment pas si loin que ça, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, et j'ai vu, on a vu le fameux ranch dans lequel a été tourné Jurassic Park, Lost, tous ces films-là. À chaque fois qu'il y a des tournages dans la région, c'est dans cette espèce de grande vallée, il me semble que Skull Island a été tourné là aussi. Enfin bref, quand tu la vois, tu la reconnais immédiatement, quoi. Tu reconnais les immenses montagnes extrêmement abruptes, mais toutes vertes. Donc c'est vraiment assez unique, c'est très cool. Donc je ne saurais que trop recommander Hawaï. Je sais que c'est une reco un petit peu particulière, donc c'est pour ça que je l'ai pas gardé dans mes recos. Mais en tout cas, on a passé un super séjour, c'était vraiment chouette.
Je vous recommande cet endroit très éloigné et très cher à atteindre depuis la France.
Voilà, j'aurais pu recommander Tahiti, hein, c'est encore plus loin.
Mais oui, non, bien sûr, non, mais bien sûr.
Après Tahiti, je suis jamais allé non plus.
Je vous recommande aussi de visiter les cités d'or, ça va être super.
Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on le chira.
On va parler un peu actu. J'ai vu en rentrant, Battle After Another. Est-ce que tu l'as vu?
Alors, je l'ai vu en bon fan de Paul Thomas Anderson. Et puis, j'étais pas mal saucé par les bandes annonces.
T'as platiné ça, filmo?
J'ai pas platiné PTA, mais Magnolia est dans mon top 3 de mes films préférés de tous les temps. Donc voilà.
J'ai déjà entendu cette phrase.
Oui, je pense. Et donc, One Battle After Another, je l'attendais parce qu'il y a eu beaucoup de trailers. Il a été pas mal marketé. Mais quelle saison ils ont, Warner, cette année, là, au niveau ciné, c'est assez impressionnant.
Ouais, ils ont des succès, ça change de l'année dernière.
Ah ouais, non, ils ont mis le pognon, ils ont eu le nez creux, et globalement, ils sont vraiment bien débrouillés. Donc voilà, je l'ai vu. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux en parler? Moi, j'ai pas mal parlé de Hawaï déjà, donc.
Écoute, c'est simple. D'abord, il convient de parler de quoi, de dire de quoi ça parle. C'est l'histoire de. Alors, la temporalité, il y a...
Il y a un petit time skip.
Une vingtaine d'années, un couple de révolutionnaires, d'extrême gauchistes, on va dire, qui ouais. s'appellent les French 75.
C'est ça qu'on voit que c'est une fiction déjà. C'était un groupe extrême gauchiste révolutionnaire aux USA.
Dont un des membres influents est incarné par Leonardo DiCaprio et l'autre par Regina Hall.
Tiana Taylor.
C'est sa copine, ouais. ouais. C'était Tiana Taylor. Et ils sont aussi un couple à la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ils font des actes terroristes. Hein,
littéralement.
C'est l'extrême gauche. Et puis à un moment arrive une merde dans leur truc. Plus ils ont un enfant. Et j'ai bien dit que la merde, c'est ce qui arrive au groupe révolutionnaire.
Bah, on peut le dire, hein, y a un braquage qui tourne mal, il y a un mort, alors que jusqu'ici il n'y avait pas eu de mort. C'était la révolution. Entre guillemets propre.
Ouais. Et ils ont un arc némésis qui est incarné par Sean Penn et qui, je pense, tient son meilleur rôle de connard.
Ah, il est formidable dedans, vraiment.
Disons que déjà dans les rôles de connard, il excellait avant. Et là, il est vraiment super rigolo. C'est une adaptation très libre d'un bouquin de Vineland de Thomas Pynchon.
Ouais.
Et le truc qui se passe, c'est que leur némésis, Sean Penn, qui est un militaire qui s'appelle Lockjaw, vraiment le nom.
Ouais.
Il devient un peu otaku de la fille. C'est-à-dire, il commence à la fois, il est en train de la scruter, de la scanner, et en même temps, il devient un peu fan amoureux d'elle, quoi.
Bah, en gros, on peut le dire. Elle l'humilie globalement et lui, il a un kink là-dessus, quoi. Lui, clairement, il a un coup de foot pour elle au moment où elle...
Pour parler pudiquement comme un militaire, ça le fait bander.
Voilà.
Et du coup, il y a une espèce de truc bizarre qui naît entre les deux parce qu'il a l'occasion de la revoir. Pendant ce temps-là, elle... Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment un couple de révolutionnaires. Le révolutionnaire joué par Leonardo DiCaprio n'est pas prêt à tout pour lâcher pour la cause. Un petit peu, mais c'est-à-dire il est conscient quand même qu'ils ont un enfant et qu'il faut faire gaffe.
Ouais.
Alors que elle est Tiana Taylor, elle est complètement investie dans la cause, et c'est-à-dire que c'est une vraie révolutionnaire. Et un vrai révolutionnaire, c'est ça qui est la force de ces couples, c'est qu'ils se disent... ok, on s'aime, mais par-dessus tout, il y a quand même la cause.
Ouais.
Il y a en fait ce pourquoi on se bat, et elle refuse un peu cette vie de famille qui lui est tendue. Et puis voilà. Voilà, je pense qu'on a.
Ah ben le bébé, clairement, pour elle, c'est un frein à la cause, quoi, et c'est un problème.
Ouais, c'est un vrai couple révolutionnaire.
Mmh.
J'ai plutôt beaucoup aimé. Vraiment, je trouve ça intéressant. On vous cache pas, ça se déroule sur plusieurs périodes, c'est-à-dire il y a une période jeune et une période plus âgée. Et Leonardo DiCaprio, je trouve, c'est un de ses, je trouve qu'il était assez chouette. Enfin, vraiment, il a une capacité quand il surjoue pas, il a une vraie capacité à se fondre dans le personnage. Je crois complètement en lui. Quand je vois le mec rincé, un peu toxico.
Ben c'est ça, il a un vrai potentiel comique quand il joue les gros losers, en fait. Et là, il le fait encore plus que dans Once Upon a Time in Hollywood, où il jouait déjà un peu un mec rincé. Là, il est sur-rincé, clairement. Enfin, je veux dire, il est en robe de chambre quasiment les trois quarts du film. Et puis, il est foncedé aussi pendant une grosse partie du film. Il a un vrai potentiel comique qui ne demande qu'à être exploité, je pense, Leo DiCaprio.
Et c'est un film dans lequel on rigole bien parce que Benicio del Toro me fait hurler de rire. Je pense que c'est pic Benicio del Toro.
Il est excellent.
Et globalement tous les acteurs, Tiana Taylor, mais aussi on va dire la jeune garde, pour parler pudiquement, la jeune garde des acteurs, des jeunes acteurs qui commencent dont c'est le premier film en fait, hein, là-dedans. Pour mes grands projets, je trouve qu'il se débrouille vraiment très bien.
Bah, Chase Infinity, qui joue donc la fille de DiCaprio, parce qu'on l'a dit, il y a un time skip, donc elle est bébé au début et ensuite tu la vois ado. Elle est super, l'actrice est vraiment incroyable. Je pense qu'elle a un potentiel.
Il y a un truc avec les actrices qui s'appellent Chase en ce moment, hein. c'est incroyable. Il y a Chase Infinity, il y a Chase Sue Wonders qui est dans la série The Studio sur Apple TV, qui elle était la star de I Know What You Did Last Summer 2025.
D'accord. J'ai vu ni le film ni la série, donc je te fais confiance.
La série, tu peux. Ben il y a un truc avec les filles qui s'appelle Chase en ce moment. Je crois que c'est le moment. Je pense que ça va être la mode. Il va y avoir une génération de Chase qui va s'en sortir. C'est comme les Zizou à un moment. Hein, tu vois, c'est parti. Il y en a plein. Mm. Mais Chase, ouais, je pense que en tout cas, Chase Infinity en plus. Infinity, c'est pas ouf comme nom.
C'est un super nom. Je t'avoue qu'au début, j'ai cru que c'était un pseudo.
Non, mais on dirait pseudo, c'est pas possible.
Genre, mais en plus, Chase Infinity, enfin, je veux dire, ça veut dire poursuit l'infinité. Enfin, je veux dire, c'est formidable. Non, mais
c'est un nom à réunir l'Infinity Gauntlet, quand même.
C'est ça.
Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors, moi, j'ai bien aimé, notamment grâce à la direction d'acteur, parce que PTS, c'est pas un manche, et que vraiment, comme tu l'as dit, DiCaprio est formidable. Chase Infinity, elle est super. Mais j'ai quelques regrets. Déjà, j'ai trouvé que Regina Hall, son personnage existait à peine, et c'est un peu bizarre. Parce que globalement, elle n'a pas grand-chose à faire et ça aurait pu être un PNJ à pas nommer, ça aurait fait la même chose. J'ai trouvé qu'il y avait quelques occasions manquées, notamment un passage où on te présente des nonnes qui font des arts martiaux et qui tirent au fusil mitrailleur et au final, que dalle, elles se font encercler et il se passe pas grand-chose.
Oui, tu penses que ça va avoir une grosse explosion là-dessus. Écoute, pour un film qui dure 3 heures, je suis d'avis qu'il y a des moments où il faut aller vite.
Ouais, et j'ai pas forcément trouvé qu'il y ait beaucoup de longueur, mais s'il y a un truc que j'ai trouvé insupportable, la musique. La musique, elle m'a pété les couilles, mais alors d'une force, et je sais que c'est le gars de Radiohead qui a bossé sur la BO, mais putain, mais il y a un moment, j'avais l'impression qu'il y avait un chat qui était lâché sur un piano, quoi. C'était une succession de fausses notes, j'ai trouvé ça archi casse-couille.
Alors moi, je trouvais pas du tout, parce que je trouvais que c'était bien dans l'ambiance. Alors je savais pas que c'était un mec de Radiohead, mais du tout, je découvre. C'est la preuve que j'ai vraiment pas documenté ce segment.
Non, moi j'ai vraiment détesté la BO, et c'est dommage, parce que tu vois, autant Magnolia, j'adore, notamment grâce à la BO de M.A. Mann, qui est formidable. Boogie Nights, la BO, elle est extraordinaire. Et là, franchement, j'étais vraiment déçu. Ça m'a sorti du film à plusieurs reprises.
C'est quoi la démo d'un pitié qui m'a... Moi, je pense que dans... The Master, la BO était incroyable. Et je pense aussi que le Phantom Threads, vraiment, c'était vraiment, je pense que d'ailleurs c'est mes deux, je pense que c'est mes pitiés préférés d'ailleurs. Voilà, je réponds à la question, est-ce que c'est mon pitié préféré? Non, je pense pas. Mais par contre, je trouve que il y a un truc très jouissif dedans. Et c'est intéressant que ça sorte vraiment dans un mouchoir de poche avec Eddington, qui c'est vraiment des films. Alors Eddington, lui, il fait le pari de faire le tout comique. Là, il y a pas de, ici, il y a quand même un peu serious business. Parce que, on l'a pas dit, mais il y a une espèce d'organisation d'extrême droite.
But on peut dire des suprémacistes blancs.
Suprémacistes blancs.
Dans, ouais. Oui, dans One Battle After Another. Et alors, il faut le dire, les scènes qui montrent les mecs, on dirait les frères Cohen. C'est à chialer de rire. Tellement t'as l'impression d'une caricature de suprémacistes. Et j'ai bien aimé parce que ça fait vraiment une rupture de ton. Et c'est vrai que tu l'as mentionné, le film est très drôle, alors que les sujets dont il traite sont pas drôles du tout, en fait. Ils sont très actuels. Donc c'était intéressant cette espèce d'ambivalence du film.
Il y a un vrai truc intéressant là-dessus et je pense que peut-être ça aurait mérité d'être un chouïa plus court, simplement parce que c'est presque 3 heures en fait, hein, mine de rien.
Ouais, c'est 2h45.
C'est 2h45, et moi je me suis pas emmerdé, j'ai vraiment beaucoup aimé les musiques et tout, et je pense qu'il y a vraiment des vrais moments de chouette réalisation, des trucs où on n'attend pas vraiment PTA de l'ordre de l'action, quoi. Je pense à notamment la fin, où il y a vraiment des trucs un peu originaux. Et,
ouais, des scènes d'action.
Ouais. Et moi, si, en plus, j'aime bien les scènes d'action un peu conventionnelles. C'est-à-dire un mec qui tombe d'un immeuble, je trouve ça fun. J'ai besoin d'un truc. Non, mais j'ai besoin d'un truc genre d'impact. Tu vois, tu peux me faire tomber une galaxie, mais si la galaxie, elle n'existe pas et que c'est de la CG, ça me touche moins qu'un mec qui tombe d'un mur et qui se fait mal.
Et t'as mal pour lui, en fait, quand tu vois la scène. Donc
Oui, bien sûr que t'as mal pour lui. Bien sûr, le but, c'est qu'il faut que tu titubes et tu fasses aïe. Non, je suis assez. Non, vraiment, je suis assez content. Je conseillerais aux gens de voir Eddington aussi en même temps, et c'est assez intéressant parce que Eddington, il y a aussi les mêmes comédiens que dans un pitié, quoi. C'est-à-dire, il y a Joaquin Phoenix. Enfin, je veux dire, c'est, il y a des comédiens qui pourraient, enfin, tu vois, il y a des gens qui pourraient jouer dans un, c'est presque des films qui se répondent de manière assez intéressante, quoi.
D'accord.
Ouais, je te le recommande. Et voilà. Et, c'est un film très anti-militariste, en tout cas, quoi qu'il arrive. Et donc je trouve ça intéressant. Voilà ce que je voulais souligner, en fait. Surtout que c'était en fait, c'est une réponse à un film que j'adore, qui s'appelle, je sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Running on Empty.
Pas vu, non.
C'est aussi la même chose, c'est un couple de révolutionnaires qui, dans les années 80, et qui vivent cachés. C'est un Sidney Lumet, et qui vivent cachés, et ils ont un enfant qui est joué par justement le frère de Joaquin Phoenix, River Phoenix. Mm-hmm. Jeune énorme talent à l'époque, mais énorme, et tu vois, il tient le film à lui tout seul, quoi. Et leur truc, c'est qu'ils vivent ils vivent cachés.
D'accord.
Et donc du coup, c'est un peu, voilà, il y a un parallèle vraiment très très important avec ce film là puisque c'est la même chose, hein. Ils vivent cachés, mais ils doivent essayer d'avoir une vie quand même de famille aussi. Et donc il y a vraiment, j'ai senti l'impact de ce Sidney Lumet là sur Pitié, et c'est pas un hasard, hein. Il a dû le voir, c'est évident. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment pas mal, et comme c'est un film que j'adore, Running on Empty, qui vraiment c'est un classique, c'est le meilleur, je m'engage, c'est un des meilleurs Sidney Lumet des années 80.
D'accord.
Voilà. Mais en même temps, c'est Sidney Lumet, un classique par décennie. Benji, est-ce qu'on a, on a plus d'autres films, on a fait tous les films, là. On est à jour, là.
Moi, j'avais un film dont je voulais parler, qui est une adaptation d'un de mes romans préférés, qui est donc The Long Walk, Marche ou Crève en VF, un excellent titre VF pour une fois. Et c'est un livre qui est signé Richard Bachman. Richard Bachman, c'est le pseudonyme que Stephen King utilise de temps en temps, et qu'il utilisait notamment à l'époque parce qu'il sortait tellement de bouquins qu'il avait peur de saturer le marché avec ses propres bouquins. Et il a sorti The Long Walk. The Long Walk, c'est un de ses tout premiers. Je me demande si c'est pas son deuxième roman immédiatement après Carrie, mais je ne veux pas trop m'avancer. Et c'est un bouquin que j'avais lu à l'époque quand j'étais au lycée, donc à la fin des années 90. Et qu'est-ce que ça raconte, de Long Walk? Ça raconte une Amérique dystopique après un conflit, on suppose probablement une guerre civile, dans laquelle chaque année est organisée une épreuve sportive qui est une sorte de marathon. En gros, dans le bouquin, c'est 100 participants, dans le film, c'est 50. Ils ont une ligne de départ, il n'y a pas de ligne d'arrivée. En gros, ça consiste juste à marcher le plus longtemps possible. Et si tu descends en dessous d'une certaine vitesse, tu as un avertissement au bout de 10 secondes. Si tu continues à ne pas retrouver la vitesse obligatoire, qui est, je crois, 3 miles par heure dans le film, et qui est un peu plus élevé dans le bouquin.
3 miles par heure, c'est 5 à l'heure, non, 6 à l'heure?
C'est à peu près 5 km heure, ouais. Mmh. Je crois que pour le bouquin, c'était une vitesse un peu trop élevée, du coup, pour le film, ils ont un peu changé ça. Tu ne retrouves pas donc cette vitesse, tu as un deuxième avertissement. Si tu as encore 10 secondes pour revenir à cette vitesse, tu as un troisième avertissement. Et au bout de 3 avertissements, au bout de 10 secondes, si tu n'as pas repris cette vitesse de 3 miles par heure, eh bien, tu te prends une balle dans la tête. Voilà, tout simplement, l'objectif.
Est-ce que t'as des pauses ou tu peux dormir?
Non, absolument pas.
Ah non, d'accord. Et c'est quoi le but? C'est qu'il faut être le dernier.
Il faut être le dernier survivant. Donc, en gros, Stephen King, dans les années 70, quand il a écrit ça, il a plus ou moins codifié le Battle Royale moderne, en fait. Mmh. Parce que, mine de rien, c'est l'équivalent d'un Battle Royale, sauf que là, c'est juste une épreuve de marche. Et c'était intéressant, le bouquin, à l'époque, parce que on te présentait vraiment un futur dystopique où tu disais ah là là, quelle imagination il a. Et de nos jours, tu vois le film, et le truc qui est vraiment effrayant, c'est que tu dis ok, alors au bout de combien d'années d'administration Trump, ils vont mettre en place un truc similaire, parce que évidemment t'as quand même un truc à gagner. Il y a une raison pour laquelle tous ces jeunes hommes s'inscrivent pour participer à cette épreuve, c'est que en gros, si tu es le vainqueur, le dernier survivant à la fin de la marche, tu obtiens, alors il y a une somme d'argent, et en plus le gouvernement s'engage à réaliser un de tes souhaits. Alors évidemment, si ton souhait c'est d'avoir une licorne, ils vont pas s'en sortir, il faut que ça soit réalisable. Mais tu vois, c'est un peu la fondation Make-A-Wish, mais avec des stéroïdes. En gros, ils vont faire en sorte que tu puisses obtenir ton souhait. Et donc le bouquin était déjà assez sombre, et le film ne l'est pas moins. Alors il y a un petit regret, c'est que c'est réalisé par Francis Lawrence. Francis Lawrence, c'est le gars qui a réalisé tous les mauvais épisodes de Hunger Games, à savoir le 2, 3, 4 et 5. Non, pardon, 2, 3 et 4.
Je t'arrête tout de suite, le 2, il est presque pas mal.
Le 2, il est honnête, mais par rapport au premier, franchement,
le 1, il est dégueulasse.
Bah, le 2 est pire.
Le 1, Le 2, on dirait presque du cinéma. Le 1,
non,
c'est vraiment...
Le 2,
je suis désolé, Ah non, et bah, Super Ciné Battle se dédouane. Je peux te dire que...
Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent au cinéma, les mecs de Super Ciné Battle?
On déteste le 1 et le 2, il est presque regardable.
Bah écoute, tu t'engages, tu es seul responsable de tes propos. En tout cas, The Long Walk, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment réalisé d'une manière... Par moment, on dirait un téléfilm, c'est vraiment très moche. Il y a une insistance sur certains plans un peu gore qui n'était pas forcément nécessaire et que je trouve un peu gratos. En revanche, au niveau du script, ils ont eu l'intelligence de moderniser certains trucs et d'adapter certains trucs d'une manière que j'ai trouvé assez maligne et plutôt intelligente dans le contexte actuel et de moderniser un peu le script. Et j'ai trouvé que c'était des choix qui étaient plutôt bienvenus. Donc globalement, en tant qu'énorme fan du bouquin, j'ai été agréablement surpris par le film. J'ai pas trouvé que c'était une trahison, j'ai trouvé que c'était une adaptation plutôt intelligente. Donc personnellement, j'aurais tendance plutôt à recommander le film, même aux gens qui connaissent le bouquin par cœur et qui penseraient ne pas être surpris. Allez-y quand même, et honnêtement, c'est relativement correct. Par contre, c'est pas un film qui va te mettre la banane, quoi. C'est un film qui va globalement te déprimer profondément. Tu vas en sortir en étant encore plus... Enfin, si t'es déjà déprimé, c'est pas forcément le film qu'il faut aller voir pour t'enfiler de bonne humeur.
Mec, j'ai vu le nouveau gouvernement, y a rien qui peut me stopper.
Bah écoute, dans ce cas-là, tu peux y aller.
Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder.
Oye, oh yeah, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi?
Casse-toi, sale gominé.
Et Benji, il y a un truc que je me demandais. Est-ce que tu as joué à Silksong? Parce que moi, il y a deux grandes sorties. En un mois, il y a Silksong et Hades 2. Et Hades 2, je me le garde pour plus tard. J'attends la version en dur, comme on dit. Je sais très bien que si je me lance dans Hades 2 maintenant, c'est foutu. Mais Silksong, j'ai vu les gens pester. Est-ce que toi, t'es du genre à pester?
Alors, sache que j'ai acheté Silksong et Hades 2, mais que je ne lancerai pas Hades 2 tant que je n'aurai pas une fin satisfaisante sur Silksong. Je ne peste pas du tout sur Silksong. Je passe un excellent moment, même s'il est entrecoupé de moments de rage parce que c'est un jeu qui est extrêmement difficile et exigeant. Mais c'est un jeu que, personnellement, je trouve brillant sur beaucoup d'aspects et que j'apprécie énormément. Alors, j'avais déjà passé beaucoup de temps sur Hollow Knight. Je l'avais fini, je crois, à 103 ou 104%, je ne me souviens plus. Et donc, je faisais partie de ces gens qui donc attendaient Silksong. Alors, j'étais pas forcément un de ces true believers qui attendaient le jeu comme le Messie. Hein. Je me disais, bon, bah quand il sortira, voilà, je m'y mettrai. Mais je ne le regrette pas, vraiment. Je passe un excellent moment. Je trouve que c'est un jeu qui fourmille d'idées vraiment super pour un jeu du genre. Et puis qu'est-ce que c'est beau, et je trouve ça vraiment très réussi. Donc je peux comprendre si on n'aimait pas le premier, comme par exemple je sais que Stéphane par exemple déteste Hollow Knight parce qu'il y a plein de trucs qui l'énervent dans la jouabilité, et je peux tout à fait l'entendre. Effectivement, Silksong ne va pas le satisfaire. Par contre, j'avoue que j'ai du mal à comprendre les gens qui ont adoré Hollow Knight et qui pour le coup détestent le Silksong. J'ai l'impression qu'ils passent complètement à côté de quelque chose. Ça me dépasse un peu en fait. Je t'avoue, je comprends pas bien. J'ai lu quelques critiques. Je peux entendre le fait que le jeu est très difficile et que des options d'accessibilité n'auraient pas été de trop. Et je peux tout à fait l'entendre, oui, c'est un jeu qui est extrêmement difficile et qui laissera sur le côté plein de gens qui n'ont pas l'intention de s'investir dans maîtriser les différents sauts, les différentes attaques, la maniabilité, et je peux tout à fait le déplorer. Un mode facile n'aurait pas été du luxe, vraiment. C'est dommage que les développeurs aient décidé de ne pas en intégrer un. Maintenant, perso, je me suis lancé à fond dans le truc, et vraiment, je passe un excellent moment. Je trouve que c'est un jeu brillant sur beaucoup d'aspects et très réussi. Alors, je ne l'ai pas encore terminé. Hein. Je vais continuer de m'y coller. Je ne sais pas si je vais viser le 100%, mais en tout cas, je continue de m'y investir et j'y passe beaucoup de temps en ce moment. Toi, Daniel, tu y as joué ou pas du tout?
Non. Alors, ce n'est pas que je refuse. Hein. J'attends d'avoir plus de temps parce qu'en ce moment, si je devais lister tous les jeux que je dois faire en ce moment, les jeux qui doivent sortir septembre, octobre et novembre, c'est des moments très, très, très chargés pour nous à Tsubimasen.
Bah, et surtout que toi, tu as une obligation de suivre l'actu que moi, je n'ai pas. Donc,
Bah ouais, tu vois, genre Pokémon, je sais que je dois y passer alors que c'est peut-être pas même mon obsession numéro un. Mais par contre, mon fils, il est au courant que Pokémon Zelda, il sort, il m'en répète, il me dit « Ah, il y a Pokémon Zelda, ce mois-ci. »
Ah, il est branché Pokémon, ton fils ?
Il n'est pas contre. Il n'est pas contre l'idée.
D'accord.
Non, il est pas contre. Mais là, en ce moment, on joue à Mario Galactica 2. C'est-à-dire Mario Galaxy 2.
Eh bah oui, bah ça, tu vois, c'est encore deux jeux qui sont dans mon backlog parce que je n'ai jamais joué à Mario Galaxy 1 et 2.
C'est vrai ?
Ah ouais, j'aime.
Ah, c'est quand même deux gros classiques, quoi.
Et j'ai jamais eu de Wii, Daniel. Et moi, personnellement, j'ai toujours détesté la Wii par son principe de base. Mmh. Et donc, les jeux Wii, je les fais au compte-goutte quand on m'en prête une ou quand ils ressortent, quoi.
Ah, mais c'est des super jeux, hein. Mais je pense que je vois, c'est marrant parce que je vois aujourd'hui les limites de Mario Galaxy par rapport à Mario
Odyssey, ouais.
Odyssey qui est vraiment une espèce d'invitation à la fête foraine, ouais, ouais, permanente, et il y a un truc génial à chaque coin de rue.
Ouais.
Alors que Mario Galaxy, quand même, quand tu chopes une étoile, il t'arrête et tu repars au début et tu refais le niveau et ça m'irrite.
Ah bah oui, bah truc hérité de Mario 64 et de Sunshine qui le faisait déjà.
Un truc hérité de Mario 64, mais Mario 64, c'est presque logique que ça le fasse.
Ouais.
Mais là, par exemple, si tu dois récupérer des pièces pour faire un tel niveau, et si tu pars dans une direction, tu peux plus le faire, et il faut le refaire. Enfin, je vois la limite du procédé.
C'est vrai qu'Odyssée apportait cette nouveauté que quand tu chopais une lune, tu pouvais quand même continuer. Ça te sortait pas du niveau, ouais.
Ça te sortait pas du niveau. Pour sortir du niveau, il fallait vraiment faire le gros event du niveau. Et je trouvais que conceptuellement, c'est juste un tout petit peu frustrant de revenir à une formule un peu avant.
Après, je sais que Galaxy 1 et 2 sont des jeux très appréciés et qui sont de grande qualité, donc j'avais toujours pour ambition d'y jouer un jour ou l'autre, et là du coup bah, ces remakes, c'est des remakes ou des remasters, peu importe, c'est ressorti,
c'est Nintendo,
ouais, ces ressorties sont l'occasion que j'attendais, tu vois. Alors évidemment ils vont être à plein tarif pendant super longtemps parce que c'est Nintendo, donc j'essaierai de choper une version physique à prix un petit peu plus doux. Parce que, tu sais, avec mon backlog, il n'y a rien vraiment qui justifie déjà pour moi d'acheter un jeu Day One à plein tarif, surtout à 80 balles. Hades 2 et Silksong, je les ai achetés plein tarif parce que je veux soutenir les indés, même si c'est deux équipes qui sont globalement plutôt riches parce que leurs jeux précédents ont cartonné. Mais tu vois, ça reste des jeux à 20 ou 30 balles, ça se justifie.
Il faut payer le travail là où il y a du travail, tout simplement.
Oui, après, je vais acheter Mario Galaxy. Hein. C'est juste que, bon, à 70, est-ce que j'ai vraiment... Le budget pour acheter des jeux à plein tarif, pas tellement en fait. Et j'ai toujours pas joué à Donkey Kong d'ailleurs, hein, donc tu vois, ça reste, c'est dans mon backlog, un jour.
Mais tu as acheté Bonanza ?
Non, j'ai toujours pas acheté non plus.
Ah d'accord. Okay.
Pour les mêmes raisons.
T'inquiète, c'est pas grave, il y a plein d'autres jeux.
Il y a un jeu Nintendo que je vais acheter à plein tarif cette année, ce sera Metroid Prime 4, donc voilà, déjà...
C'est celui qui m'intéresse le moins.
Alors que, moi, c'est celui qui m'intéresse le plus parce que j'adore Metroid Prime. J'adore un peu moins le 2 et le 3, surtout le 3 sur lequel en vrai j'y joue avec clavier souris et c'est vachement mieux quand même parce qu'à la Wiimote, putain, je pense que j'aurais détesté l'expérience à la Wiimote. Mais voilà, le 4 je l'attends parce que justement le 4 on pourra jouer avec une simili souris avec le Joy-Con, donc ça, je suis super emballé.
Ouais, moi ça m'intéresse absolument pas, mais par contre, j'ai refait un jeu Nintendo, moi, cet été. Je me suis fait Mother 2, alias Earthbound. Et c'est un jeu symbolique pour moi parce que c'est le premier jeu dont j'ai vu une publicité au Japon quand je suis arrivé en 94.
Ouais.
Genre, je me suis levé, j'ai allumé la télé et j'ai découvert Earthbound et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce que on dirait que les gens sont dans une secte quand tu vois la pub.
Ouais, et puis c'est aussi un jeu qui est jamais sorti en Europe, donc il avait une aura un peu mythique à l'époque.
Ouais, tout Mother, mais après, alors du coup, maintenant, c'est pas si mythique parce que maintenant, si t'as le Switch Online, il est disponible en anglais.
Tout à fait.
Et du coup, c'est comme ça que je l'ai refait. Et c'est absolument génial. C'est vraiment la magie Mother, la magie Earthbound. C'est un truc à la fois très terre à terre de gamin qui part contre des extraterrestres qui envahissent son monde. Et en même temps, il y a une espèce d'invitation à l'aventure. C'est vraiment c'est du Mark Twain moderne, quoi. C'est absolument sidérant et vraiment je recommande à n'importe qui aime les RPG. Je l'avais pas fait entièrement en fait. Je m'étais arrêté à chaque fois à certains passages.
Ouais.
Et là, ce coup-ci, le problème, c'est pas que j'ai pas voulu le finir, c'est que j'ai perdu ma sauvegarde transvasant de Switch 1 à Switch 2.
Ah, ça c'est moche.
J'ai perdu la sauvegarde des jeux Switch Online. Donc il a fallu que je refasse tout. Mais je me suis dit, allez, quand même, ça va être fun. Et c'est allé très vite. C'est vraiment allé très vite. Et il y a un truc dans Earthbound où parfois le jeu, il éclate le quatrième mur et il s'adresse à toi. Et je trouve que ça, c'est très près Kojima en plus. Kojima, je pense qu'il a joué à Earthbound. Il sait comment ça fonctionne. Et je vois les ficelles. Je pense que Kojima n'aurait pas été le mec qu'il a été sur Metal Gear Solid s'il n'avait pas joué à Earthbound. Voilà, c'est le meilleur RPG de Nintendo de fait, quoi.
Bah, Earthbound, c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué quand j'ai découvert les émulateurs, parce que comme je disais, donc il n'était pas sorti en Europe, donc pour le trouver, pour moi, c'était quasiment impossible. Et Earthbound, ça fait partie de ces jeux que j'avais absolument envie de tester avec Chrono Trigger. Et depuis, je l'ai refait en long, en large, en travers, donc sur le Switch Online et sur la SNES Mini aussi, sur laquelle il était disponible.
Tu y as joué, en fait.
Earthbound, je l'ai fait, ouais. Mother 3 est un de mes jeux cultes.
Ouais.
Et avant de jouer à Mother 3, j'avais évidemment joué à Mother 2. Alors, je n'ai jamais fait Mother, le jeu d'origine, et je sais que sur le Switch Online, il y a une version traduite.
Ils l'ont traduit.
Et donc, il faudrait vraiment que je m'y mette, mais en fait, sur le Switch Online, sur NES, je joue à Star Tropics, qui est pareil, est une série de jeux Nintendo qui n'est a priori, à ma connaissance, pas sorti en Europe, et qui font partie de ces classiques auxquels il faudrait absolument que je joue, et donc je suis au milieu d'un Star Tropics 1, j'ai pas encore fait le 2. Mais c'est très bien que tu parles de ça et du Switch Online, parce que récemment, j'ai aussi joué à un classique de Nintendo qui a été un peu oublié, et qui est ressorti après quasiment 20 ans à avoir été mis sur une étagère chez Nintendo, et c'est Star Fox 2. Star Fox 2,
sur la SNES Mini.
Voilà, qui a été sur SNES Mini, qui était vraiment l'événement de la SNES Mini, c'était l'inclusion de Star Fox 2. Et depuis, il est sur le Switch Online aussi, Star Fox 2. Donc, c'est beaucoup plus facile d'y avoir accès s'il n'y avait pas de SNES Mini. Et l'histoire de Star Fox 2, elle est quand même assez terrible parce que, déjà, il faut parler de l'histoire de Star Fox. Star Fox, c'est un jeu en 3D face pleine sur Super NES qui a été développé par une équipe anglaise, des gens qui s'appellent Argonaut Software et qui avaient déjà fait un jeu en 3D sur Game Boy, ce qui était déjà extraordinaire, et c'est ce qui avait un peu attiré l'attention de Nintendo, c'est que les gars avaient sorti un jeu en 3D sur Game Boy, et donc du coup quand ils sont venus avec leur maquette de jeu en 3D sur Super NES, Nintendo, ils ont dit ok, on va vous publier, et donc c'est Nintendo qui s'est occupé de tout l'enrobage, donc toute la création des personnages et tout, c'était sous la supervision de Miyamoto. Et le premier Star Fox, à l'époque, avait créé quand même un événement. Alors, quand on le voit de nos jours, le premier Star Fox, il fait un peu rigoler parce que c'est quand même un jeu qui va à quoi 15 images secondes, avec de la 3D face pleine, avec globalement, il y a 3 textures grand max dans tout le jeu. Pour l'époque, c'était impressionnant, connaissant la machine. De nos jours, pas du tout.
Mais surtout, ça allait à toute berzingue. C'est surtout ça la force de Star Fox, c'était de l'action non-stop. Quoi.
Voilà, et on avait l'impression que ça allait à toute berzingue, mais quand il rejoue de nos jours, c'est anémique, quoi. 15 images secondes, c'est compliqué. Et donc, quand Star Fox 2 avait été développé, le jeu était complètement terminé, était prêt à sortir, mais on était fin 97 et Nintendo, ils se sont dit, ouais, mais là, le problème, c'est que par rapport à la Saturn et la PlayStation surtout, ça fait un peu pâle figure, on va plutôt focus sur la Nintendo 64, et donc l'essentiel des idées qui avaient été amenées dans Star Fox 2, ils les ont gardées pour finalement les remettre dans Star Fox 64 qui est sorti un peu plus tard,
qui était une déception, à mon sens,
qui était un peu une déception, ouais. Et du coup Star Fox 2, bah, lui avait été complètement mis de côté et était un peu cet objet mythique où tu avais de temps en temps sur internet des prototypes plus ou moins finaux qui apparaissaient avec des développeurs qui hackaient la ROM pour la rendre jouable, et donc on s'était toujours dit qu'on verrait jamais le Star Fox 2 final. Et puis un jour Nintendo, tu vois, et c'est pas souvent que Nintendo fait des good guy Nintendo comme ça, mais là c'en était vraiment un, hein. Ils se sont dit allez, on le sort avec la SNES Mini. Et c'est donc grâce au Switch Online que j'ai pu y jouer, et j'ai mis un peu le temps d'y jouer. Et eh bien, je dois avouer que je comprends un peu mieux pourquoi ils l'ont mis de côté. Et la raison pour laquelle je le comprends, c'est que Star Fox 2, en fait, c'est une proposition un peu radicale. Alors, est-ce que tu y as joué, toi, Daniel, à Star Fox 2 ?
Juste un peu. J'ai acquiescé le fait qu'il était sur la SNES Mini et je suis passé à autre chose.
D'accord. Eh bien, écoute, si tu as l'occasion d'y jouer un peu plus longtemps, tu verras, c'est un jeu qui se termine en 45 minutes.
Mmh.
Et je ne plaisante pas, c'est un jeu de scoring, en fait. Et ils ont complètement changé parce que le premier Star Fox, c'est un jeu, donc c'est un shoot 'em up en vue derrière, un peu à la Space Harrier ou à la Thunder Blade. C'est un jeu où tu as le choix entre trois routes, une route facile, une route moyenne, une route difficile. Et globalement, c'est un jeu solo, un shoot 'em up où quand t'es arrivé à la fin, bah voilà, tu fais la route plus difficile. Et puis t'as une notion de scoring déjà parce que t'as un pourcentage qui t'est donné à la fin de tes runs et tu peux essayer de faire un run parfait sur la route difficile. Et c'est comme ça que c'est un jeu qui mine de rien préfigurait du speedrun. Star Fox 2 adopte une démarche encore plus radicale. Il y a plus d'idée de route. En fait, t'as une idée de défense spatiale où la planète dont tu pars, dans la planète Corneria, est attaquée par les méchants. Tu dois intercepter les missiles adverses, tu dois intercepter les vaisseaux adverses, et une fois que tu as fait ces missions d'interception, tu peux direct aller attaquer l'ennemi, donc l'ennemi Andros, qui est donc pas la marque de confiture, mais l'ennemi héréditaire de l'équipe de Star Fox. Et en fait, ça peut aller très très vite, quoi. Et t'as vraiment pas d'itinéraire obligé. T'as un choix, enfin t'as une liberté complète d'aller où tu veux. Et bah ouais, ça fait que le jeu peut être très 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 vite expédié. J'ai mis 45 minutes, mais je pense qu'en connaissant le jeu, en un quart d'heure, on peut le plier, en fait. Si on va direct sur les bons objectifs dès le départ. Et c'est vraiment uniquement un jeu de scoring. Et je peux comprendre qu'une proposition aussi radicale, Nintendo se soit dit, on va se faire déglinguer, en fait. C'est un jeu qui peut être fini en 15 minutes. Il y a des chances que une partie du public et de la presse ne le comprennent pas et donc qu'on se fasse saquer parce que la durée de vie est courte. Donc je pense que ça a probablement joué. C'est aussi l'épisode qui introduit les phases terrestres qui ne sont pas les phases les plus réussies dans le jeu Star Fox. On se rappelle de Star Fox Zero sur Wii U, les phases terrestres globalement étaient relativement détesté par la plupart des critiques et des joueurs. Et ben c'est Star Fox 2 qui introduit ce module terrestre. En gros, ton vaisseau, il se transforme comme un transformer.
Un tank.
Il se transforme en espèce de... Alors là, c'est pas vraiment un tank, c'est une espèce de bipède, mais qui est un peu plus tank que le vaisseau, hein. Il est beaucoup plus solide, mais qui peut sauter encore, qui peut tirer des grosses boulettes. Et qui est un peu plus dur à diriger, mais dans les environnements 3D, ça se fait avec les gâchettes LR, en fait. Donc, je peux comprendre, voilà, pour toutes ces raisons, que Nintendo se soit dit, c'est peut-être pas la meilleure idée de le sortir, donc on va le mettre de côté alors qu'il était terminé. Ça reste une curiosité, je suis content d'y avoir joué, mais clairement, c'est pas un jeu que je vais relancer comme ça, pour le plaisir, comme à l'époque où quand j'avais le jeu Star Fox, parce que, on le rappelle, les cartouches Super NES à l'époque, ça coûtait une fortune, eh ben, tu le relançais, histoire d'avoir la partie parfaite, quoi. Tu essayais vraiment d'en tirer le maximum. Ce jeu-là, je ne pense pas le relancer énormément. Je vais continuer sur ma lancée et jouer au jeu Star Fox suivant, puisque tu me connais, hein, il faut que je fasse tous les épisodes. Et je veux essayer de comprendre un peu ce qui est arrivé à cette licence.
Pourquoi je pense Star Fox, parce que c'est pas...
Mais c'est ça,
la suite est pas ouf.
C'est ça, c'est une licence qui a eu un très très gros premier épisode et qui par la suite, en fait, s'est un peu perdu et c'est la raison pour laquelle ils en sortent plus, en fait. Tout simplement.
Le bois ne rend pas les coups.
Benji.
Ouais.
Je sais que After Eight, c'est un titre trompeur et qu'à la fin, on balance ton reco. Balance ta vraie reco.
Alors, ma vraie reco, c'est une reco musique. Et c'est pas souvent que je fais des reco musique, mais là, c'est un groupe rennais. Un groupe rennais dont j'ai découvert l'existence grâce à un ami commun qui s'appelle Moguri, qui a d'ailleurs été invité de ce podcast de plusieurs fois. Même.
C'est vrai.
Et grâce à lui, j'ai découvert ce groupe qui s'appelle Totoro avec deux R et a priori pas de rapport avec le personnage de Ghibli. Mais donc c'est un groupe rennais et c'est un groupe rennais qui fait ce qu'on appelle du mat rock ou du post rock. Donc c'est du rock instrumental. Il y a très peu de paroles. Il y en a de temps en temps, mais c'est pas l'essentiel. Et c'est vraiment de la musique qui, moi perso, me file la banane. Quand ça va pas fort, je me mets un disque de Totoro et je trouve ça vachement feel good et vachement cool à écouter. Et donc ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Sofa So Good, donc jeu de mots, Sofa So Good.
Je l'ai.
Et qui est disponible sur Bandcamp. Et il est sorti donc vendredi dernier pendant Bandcamp Friday. Donc c'était vraiment l'occasion, puisque je sais pas si tu connais Bandcamp Friday. C'est toutes les semaines, tous les vendredis, en fait, l'intégralité du prix du disque est reversée à l'artiste. Le site ne touche rien. Donc c'est l'occasion de soutenir les artistes que vous aimez.
Ah, c'est vrai, c'est cool ça.
Et donc j'ai donc acheté l'album. Et en plus, ça, il était vraiment pas cher. Je crois qu'il coûtait 9 balles. Enfin, ça se fait quoi. Et super album, dans la droite lignée des précédents, vraiment super chouette. Je pense que je vais attendre que le disque sorte en vinyle pour acheter une copie vinyle, comme je l'ai fait pour les précédents albums. Je ne saurais que trop les recommander, puisqu'en plus, ils sont en tournée. Ils sont au Trabendo le 14 octobre à Paris. Donc, si tu as envie de découvrir, si déjà tu peux écouter les extraits sur Bandcamp, si ça te plaît, je te recommande d'y aller en concert, car moi, je ne peux pas les voir en concert, puisque j'ai pas connaissance qui tourne aux USA, malheureusement.
Tu sais qui j'ai vu au Trabendo ?
Eh bien, dis-moi.
J'ai vu Offspring au Trabendo.
Moi, j'ai vu les Presidents of the USA au Trabendo, et ensuite j'ai bu des bières avec eux au bar.
Et le truc, c'est que les gens me disent « Quoi ? Offspring au Trabendo ?» Mais oui, en fait, Offspring, pendant un moment, personne ne s'intéressait à eux, en fait.
Ouais, ils ont une grosse traversée du désert.
Ouais. Ils ont une traversée du désert, maintenant, ils font les comment ils s'appellent, les festivals, les trucs du rock, les solidaires, enfin, ils les font tous, hein. Maintenant, c'est des grosses restas, des têtes d'affiche. Mais pendant une période, voilà, ils faisaient le Trabendo, quoi.
Ouais. Donc écoute, comme il faut soutenir la musique en live, donc je répète, donc le Trabendo le 14 octobre, ils sont à la Cartonnerie à Reims le 16 octobre, ils sont au Gueulard Plus à Nilvange, une ville que je ne connaissais pas, mais c'est en Moselle, le 17 octobre, ils sont au Ninkasi Cordelier à Lyon le 23, au Brise-Glace à Annecy le 24, donc j'ai dit à papa d'absolument y aller, et au Rex à Toulouse le 6 novembre, voilà, c'est tout ce que j'ai comme date.
Le 24, ah, en novembre.
24 octobre à Annecy, au Brise-Glace. Et à Toulouse, donc au Rex, le 6 novembre. Donc voilà, super groupe, je les recommande. Leurs albums coûtent une bouchée de pain sur Bandcamp. C'est vraiment de la super musique. Bon, honnêtement, moi, ça me met la banane. Écoutez Totoro, c'est super. Et il y a plusieurs lives d'eux, si vous cherchez sur YouTube, qui sont directement disponibles. Vous pourrez voir qu'en live, ils ont tout le temps la banane. Leur batteur est incroyable. Le type, il a une patate, c'est extraordinaire. Donc voilà, je recommande fortement toute la musique de Totoro et notamment leur dernier album So Far So Good. À toi Daniel.
Et pour ma part, je vais recommander un jeu. Alors c'est un jeu qui est sorti déjà il y a quelques dizaines d'années, mais qui ressort aujourd'hui.
Écoute, moi je viens de parler de Star Fox 2, alors je pense que t'es bon.
Évidemment. Et ben c'est pas loin des mêmes eaux. C'est Final Fantasy Tactics qui est ressorti.
Ah bah oui.
Et le truc avec, bon, c'est un jeu culte, hein. Je vais pas vous refaire l'article de pourquoi Final Fantasy Tactics c'est extraordinaire, mais c'est un jeu extraordinaire, voilà. C'était vraiment une offre assez unique de la part de Squaresoft à l'époque d'adapter la mécanique de Tactics Ogre, mais en faisant un jeu Final Fantasy.
C'était Matsuno, hein, c'est ça?
Ouais, c'est Matsuno, donc c'est très dramatique. C'est serious business, il y a pas de place à l'humour. C'est un monde heroic fantasy très désespéré. C'est étonnant à quel point c'est moderne parce que tu peux imaginer que les trucs genre Game of Thrones et tout, mais non en fait ça y était déjà dans Final Fantasy Tactics. Et il ressort sur PS5, Switch et Xbox et PC, enfin tout ce que tu veux, il ressort partout. Évidemment, je te dirais, joue-y sur la version qui te plaît le plus parce que c'est pas le jeu qui consomme le plus de ressources système.
Ouais.
Et c'est un jeu qui a été un peu retapé en termes de confort puisque les menus ont été refaits. Il y a des choses qui ont été repensées. Il y a plus de limites de personnages à avoir dans ton équipe. Et ça, c'était stupide parce que dans le jeu original, c'était très contraignant. Je crois que t'avais une limite de 16 personnages. Mais du coup, ton stock, il arrivait très vite. Tu pouvais pas faire, par exemple, de personnages customisés et en plus de garder les personnages de l'histoire parce que voilà, tu étais coincé. C'est un vrai super jeu. La difficulté a été retouchée, mais ça reste quand même un peu ardu, ça reste quand même très ardu par moment. Mmh. Mais genre vraiment très ardu parce qu'il y a à la fois un level cap, mais à la fois il y a aussi un truc de level qui s'ajuste sur toi. Ça dépend des batailles en fait.
Il y a des options de quality of life qui ont été rajoutées par rapport à la version PlayStation.
Oui. D'accord. Il y en a plein. Par exemple, le jeu original pouvait se softlocker. C'est-à-dire que tu pouvais arriver devant une bataille et tu t'avais sauvegardé. Si t'avais jouer sur une seule sauvegarde, t'étais foutu. Donc il fallait reprendre une sauvegarde antérieure ou quelque chose. Ça, c'est un truc qui est impossible maintenant.
Ouais.
Tu peux retourner en arrière.
D'accord.
Il y a par exemple des bastons aléatoires qui arrivent sur certaines cases. Ben, on te demande, est-ce que tu les veux vraiment ? Est-ce que tu veux vraiment te battre ? Tu peux les skipper sans aucun forme de malus.
C'est ça, c'est ma grande parano dans les RPG parce que je me suis softlocké, je crois, sur Final Fantasy IV. À un moment où tu peux pas revenir en arrière, t'es obligé de taper un tunnel de combat et j'avais un niveau trop bas et je me faisais déglinguer, quoi.
Mais c'était au début ou à la fin ?
C'était à un moment, t'es sur un bateau et t'es obligé de te taper des monstres t'es en ligne droite et j'avais pas le niveau et je me faisais déglinguer. Faut que je recommence le jeu du début, quoi.
Ah ouais, je pense qu'il faut, sinon tu peux pas passer à 5. 5, ouais, ni à 6, bah voilà, ni à 7. Et comment tu vas faire l'intégrale?
Bah, tu as raison. Exactement.
Final Fantasy Tactics, c'est vraiment un jeu exceptionnel. J'ai quand même un petit bémol, c'est que pour un jeu de cet acabit, pour un jeu de cette importance dans l'histoire du jeu vidéo, je pense que ça aurait été pas mal de le retoucher un peu graphiquement. Et là, c'est un petit peu upscalé. C'est assez mignon sur petit écran. Mais je trouve que ça aurait mérité d'être un peu plus repensé, un peu plus
d'accord,
un peu plus retravaillé, genre un truc un peu fou. Et là ils se contentent d'un truc très simple, sans doute parce que c'est fait par ils ont demandé à un des mecs qui travaillait à l'origine dessus, dans le but de respecter l'œuvre originale. C'est vraiment un truc de conservation plus que de restitution, je trouve, en termes de travail de remake. Mais voilà, mais en tout cas, vous avez pas besoin de moi pour rejouer à Final Fantasy Tactics si vous connaissez, savez à quel point c'est super. Mais par contre, si vous n'y avez jamais joué, c'est vraiment l'occasion et c'est la meilleure version pour y jouer.
Ok. Et alors, pour moi qui ne suis pas forcément familier avec la saga, Final Fantasy Tactics Advance, c'est quoi? C'est un spin-off de Tactics?
C'est un spin-off, mais qui n'a rien à voir. Enfin, d'accord. Genre, tu peux y jouer sans...
Parce que c'est le seul auquel j'ai joué, en fait.
Il n'y a pas de rapport et c'est beaucoup moins bien.
D'accord.
Il n'y a pas le dramatique, il n'y a pas le truc, le cœur de ce qui fait Final Fantasy Tactics, c'est-à-dire vraiment, c'est une histoire qui est vraiment ultra prenante. Et là, maintenant, en plus, elle est. Alors, il faut le dire à ajouter, c'est que désormais, elle est complètement doublée en anglais et en japonais. Et pour la première fois, le jeu est traduit en français. Et
d'accord,
la traduction est vraiment brillante.
D'accord, très bien.
Eh ben c'est tout pour aujourd'hui. Super Ciné Battle After Eight est disponible sur toutes vos applis, vos podcasts et vos applis dédiées, et sur le site aftereight.fr. Benji, on peut te retrouver sur des réseaux sociaux complètement abscons.
On peut me retrouver sur Mastodon, qui est un réseau social qui n'est pas soutenu par la crypto-monnaie, donc qui est un réseau social résilient qui va rester.
J'ai envie de te dire bon courage. Et moi, je suis sur... Comment ça s'appelle ?
Toi, tu es sur un réseau social qui est soutenu par la crypto-monnaie et dont la CEO est en train de se ridiculiser online et donc qui va couler comme les précédents.
J'en ai pas vu la couleur.
Ah ben, t'étais au Japon, mais je peux te le dire.
Mais, et du coup, je suis sur... merde, j'oublie... Blue Sky.
Voilà.
Je suis sur Blue Sky. Mais en même temps, tu sais quoi, depuis que je suis plus sur... une fois, je suis allé sur Twitter et juste, j'ai allumé et ça me file des pubs, mais horribles, vraiment des pubs... des pubs dégueulasses et je comprends pas, je ne comprends pas comment c'est admissible de vivre un truc de publicité aussi hostile à l'être humain, quoi.
Je ne comprends pas les gens qui y sont toujours, ça je te le confirme.
Mais moi je suis obligé pour le taf, c'est-à-dire surveiller la veille japonaise. Le Japon est encore très très Twitter, donc on est obligé de surveiller ce qui se fait, de surveiller les artistes aussi, mais par contre de la veille Twitter, elle se fait pour le japonais, elle se justifie. Mais par contre, le reste, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Écoutez, on vous embrasse très fort. On est aussi sur, moi, je suis sur Instagram aussi. Hein, je répète, Instagram. On a un compte TikTok avec Soubimasen et j'en ai un personnellement même. Et voilà, on essaie pas trop en fait de couvrir les réseaux sociaux. En fait, faudrait faire une campagne de pub en 4x3 pour After Eight. Qu'est-ce que t'en penses? Pour que les gens nous connaissent et en plus, on va se mettre sur Spotify et sur tous les trucs que t'aimes pas là. Comment il s'appelle? C'est lequel que t'aimes le moins? Deezer ou Spotify?
Spotify, largement. Spotify, c'est vraiment. Non mais Spotify, il finance l'industrie. Ils financent l'industrie militaire. Spotify, c'est une catastrophe. Deezer, c'est moins pire.
Ah, d'accord, ok. Bon, bah écoute,
Après, moi, je suis sur Apple Music et Apple se couche devant le fascisme en ce moment, donc c'est pas la teuf.
Je suis sur Apple Music, mais merci de m'avoir cassé mon groove, Benji.
Ah ouais, donc, voici, ça me fait chier. Hein.
On vous remercie de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao.
Gros bisous. Ciao.
Ah, est-ce que t'as vu, mais non, mais t'as peut-être pas vu sur YouTube, mais on l'a fait sur YouTube et on l'a mis aussi sur TikTok. Greg, on a écrit, et surtout Greg a réfléchi dessus, une parodie des influenceuses de Japon. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup en ce moment. Tu sais, les gens qui te donnent des bons conseils pour aller au Japon.
Ouais.
Et Greg en a fait un et c'est à pisser de rire. C'est vraiment, je te conseille de le regarder.
C'est sur la chaîne de Sumimasen ?
C'est sur la chaîne Sumimasen. Et si tu veux la voir, c'est dans la fin du vlog de TGS. Le premier vlog de TGS, donc ça remonte à il y a 2 semaines.
Ok.
Et ça va... Attends, mais pourquoi je fais ça ? Je t'envoie le lien direct. YouTube, je te l'envoie.
Ouais, vas-y.
Et tu peux... et c'est quoi ? Tu me feras plaisir, regarde-le en même temps. Regarde-le maintenant, c'est juste, c'est tout à la fin.
Vas-y, envoie-moi. Envoie-le-moi sur Mumble.
Ouais, sur Mumble, oh là là.
T'enregistres toujours, en fait ?
Ouais, j'enregistre toujours,
moi aussi.
Toi.
Moi aussi.
Moi aussi. Comme ça, notre ami Baptiste va s'amuser. Sur Mumble, alors. C'est où Mumble ? Il est où Mumble ? Il est où Mumble ? Top. Et c'est à la fin. C'est à la fin. C'est genre... C'est à 16 minutes. T'es prêt ?
Ouais, c'est parti.
Sumimasen les Tomodachi, aujourd'hui je partage avec toi 3 informations essentielles que j'aurais aimé connaître avant de partir au Japon. Si tu veux en savoir plus sur ce pays merveilleux, n'hésite pas à t'abonner. Première chose à savoir quand on va au Japon, certaines portes n'ont pas de poignée et s'ouvrent toutes seules. C'est incroyable, on est vraiment au pays de la technologie. Deuxième chose très importante au Japon, c'est quand tu prends quelque chose, il faut le payer. Tu ne peux pas sortir du magasin comme ça, il faut passer en caisse et donner de l'argent. Troisième info, et peut-être la plus importante, au Japon, une fois que tu as fini de consommer ce que tu as acheté, tu te retrouves avec un emballage vide. C'est très important car tu ne peux pas le garder toute la journée avec toi, il faut t'en débarrasser à un moment. Si tu veux en savoir plus sur ce merveilleux pays entre tradition et modernité, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces.
Mais alors attends, j'aime bien sa troisième astuce où il parle d'emballage vide. Le problème, c'est que justement, il n'y a pas de poubelle dans la rue, donc comment tu fais ? Hein ?
Bah, c'est pas grave, c'est un conseil.
Tu te balades toute la journée avec, du coup. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, on mettra un lien directement vers ça dans le post. Voilà.
Ouais, je pense qu'on peut même le mettre en audio, mais honnêtement, on en avait encore 2 autres en prévision, on n'a pas eu le temps de les faire, mais franchement, faut le faire, faut qu'on les fasse. Hein. Ouais, franchement, ouais. Ça sort de notre système. En fait, pourquoi ? C'est parce que moi, je regardais beaucoup les RS et Insta et les YouTube et les machins, les trucs. Et forcément, quand tu t'intéresses au Japon, bah, t'en as d'autres qui arrivent. Donc, t'en as d'autres qui découvrent et je découvre machin. Bene Fukuoka, enfin genre des trucs Malou in Japan. En général, je rajoute in Japan à la fin pour que tu comprennes et tout. Et il y en a qui sont pas mal, hein. Mais globalement, genre ça les saoulait en fait d'écouter ça. Les autres, ils en pouvaient plus d'écouter ça en audio derrière moi. Et au bout d'un moment, ils ont dit viens, on fait ça. Voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée.
Très bien. Bah écoute,
t'as toute la genèse.
On va couper.
On coupe.
Allez.
Aïe.
En production, RPU.